Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IGL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest, au Nunavut et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Le 8 mars, c'était la Journée internationale pour les droits des femmes. La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a saisi cette occasion pour inviter les femmes de tout horizon à se lancer en politique. À partir du 1er septembre 2021, le salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest sera de 15,20 $ de l'heure. Face à l'augmentation importante d'infractions, le gouvernement des TNO fait front commun avec des organisations et gouvernements autochtones pour protéger les troupeaux de caribous des chasseurs négligents. On fait le point sur les campagnes de vaccination des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Baptiste Foisy nous parle du nouveau programme de sensibilisation de la fonction publique des territoires du Nord-Ouest aux cultures autochtones. La municipalité d'Inuvik, au territoire du Nord-Ouest, a récemment adopté les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Je me suis entretenu avec la ministre Mélanie Joly à propos de cette réforme sur les langues officielles qu'elle compte déposer, dit-elle, dans les prochains mois. Le président Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau ont récemment signé une entente de principe qui inclut la protection du refuge arctique en Alaska. Ma collègue Nelly Guidici nous en parle. Et finalement, la Nunavut Black History Society prolonge le mois de l'histoire des Noirs le 14 mars avec le défilé de mode For Us, By Us.
The minimum wage in the Northwest Territories will increase from $13.46 per hour to $15.20 per hour, making it the second highest minimum wage in Canada.
À partir du 1er septembre 2021, le salaire minimum des territoires du Nord-Ouest passera de $13.46 de l'heure à $15.20 de l'heure. Le ministre de l'Éducation, la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, en a fait l'annonce ce jeudi 11 mars en Chambre. Il s'agira du second taux horaire minimum le plus élevé des territoires et provinces canadiens après le Nunavut. La dernière augmentation du salaire minimum au TNO date de 2018. Notons que depuis un an, le salaire minimum a été temporairement élevé à $18 de l'heure au territoire du Nord-Ouest dans le cadre du programme de supplément au salaire mis sur pied dans le but d'atténuer les impacts de la pandémie. En date du 10 mars 2021, 2360 personnes en ont profité. Cette augmentation temporaire du salaire minimum est financée par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Le programme doit prendre fin le 31 août 2020, c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau salaire minimum de $15.20 de l'heure. La décision d'augmenter ainsi le salaire minimum régulier aurait notamment été prise en regard des recommandations du Comité sur le salaire minimum mis en place en 2013. Comme l'a précisé le ministre Simpson lors d'une période de débat en février dernier, les rapports de ce comité ne sont pas rendus publics puisque ces recommandations sont adressées à un membre du Conseil des ministres. Certains députés ont plaidé au cours des derniers mois pour maintenir le salaire minimum des territoires du Nord-Ouest au niveau accordé depuis bientôt un an dans le cadre du programme de supplément au salaire, soit $18 de l'heure. Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, a soulevé cette question en chambre le 9 février. Lors d'un échange avec le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, le député a notamment pointé l'opacité du processus entourant ce type de décision au territoire du Nord-Ouest.
Apparently, there is a mysterious minimum wage committee that has been in place since 2013.
Monsieur O'Reilly a donc notamment cherché à faire la lumière sur le mystérieux comité sur le salaire minimum, comme il le désigne, qui a été mis sur pied en 2013.
There's virtually no information on any GNWT website about this committee, who sits on it, and what they look at.
Il n'y a pratiquement aucune information sur le site web du gouvernement à propos de ce comité, incluant qui y siège et quels sont leurs objectifs, a avancé le député. En date d'aujourd'hui, ces informations sont incluses au site web du ministère. On peut y lire essentiellement que ce comité sur le salaire minimum est composé de deux représentants du patronat, deux représentants des travailleurs, un représentant des organismes communautaires et de deux représentants du ministère de l'Éducation, de la Culture et la formation. Les membres se rencontrent tous les deux ans.
It's very lonely being the only woman at the table in the Federation.
On entend ici la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, qui dit se sentir bien seule en tant que seule femme à la table de la Confédération. Elle tenait ses propos le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, dans le cadre d'un panel de discussion qu'elle partageait avec l'ex-première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne. Madame Cochrane a profité de cet événement virtuel organisé par le groupe Canada 2020 pour appeler les femmes à faire tomber les barrières et à aspirer au rôle de leader.
Every woman out there that is thinking of a leadership, challenge yourself. Choose to challenge yourself. Choose to challenge societal norms. Put your name forward. You can do it.
Mettez-vous au défi, vous pouvez y arriver. C'est le message lancé par la première ministre aux femmes qui songent se lancer en politique et qui craignent ne pas correspondre au profil. À l'heure actuelle, Caroline Cochrane est la seule femme au Canada à être à la tête d'un territoire ou d'une province. La première ministre avance d'emblée ne pas correspondre au profil type d'une politicienne de son calibre, une observation qui lui aurait été faite à de nombreuses reprises.
Like I said, I took beatings a lot, even by other women that said she's not the right woman. Make sure you get the right woman if you're going to get a woman. What is the right woman? Nobody's ever laid that out for me, and nobody should lay that out. So I would love to see more women of all kinds of diversity. We all have something to bring.
Certaines personnes m'ont dit, et incluant des femmes, que je n'étais pas la bonne femme pour occuper un rôle de leader en politique. J'ai décidé de relever ce défi. Toutes les femmes ont droit de tenter leur chance et devraient le faire, a-t-elle affirmé. Nous avons des voix différentes et des vies différentes des leaders conventionnels. Kathleen Wynne a abondé dans le sens de sa consœur.
The very reasons that you might hesitate, that you don't know enough, or you don't have the usual experience that politicians have, or you don't know where the money will coming from, all things that Premier Cochrane noted, those are the very reasons we need you in political life. You're not of that narrow band of people who have been in those over 300 positions. Your life experience will inform good decisions, and that's why you're needed at the table.
En tant que femme, dit Kathleen Wynne, ex-première ministre de l'Ontario, vous pourriez vous dire que vous n'en savez pas assez, que vous n'avez pas toute l'expérience dont disposent normalement les politiciens ou l'argent nécessaire. C'est pourtant pour ces raisons que nous avons besoin de vous en politique. En cours de discussion, Mme Cochrane a notamment confié avoir fait l'erreur, dit-elle, de suivre certains conseils la poussant à agir comme un homme au moment où elle a accédé au poste de ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation.
So I got into this position and I was told you have to go right back to being that angry woman if you want them to listen. And I did. I took my management team and I was yelling and screaming and pulling my hair out and saying, do you want your job or not? I realized that all it did was make them afraid of me and it never moved them. The advice was be like a man. Be assertive, be yelling, be loud if you want to be respected. But that was a fallacy. The advice that I would give is be yourself.
Caroline Cochrane dit donc avoir, au début de sa carrière politique, été poussée à adopter une attitude contre nature, à devenir une femme fâchée qui s'impose en criant. Avec le temps, dit-elle, j'ai réalisé que cette attitude faisait peur aux gens, mais ne leur permettait pas de changer, de s'améliorer. La première ministre a profité de la discussion pour décrire un parcours professionnel quelque peu différent de celui des autres politiciens, comme elle le décrit.
I was a high school dropout in grade 9, come from a family, a lot of addictions, a lot of family violence, ended up being on my own as a street kid, being homeless for a few years.
Caroline Cochrane raconte qu'elle est issue d'un milieu familial marqué par la consommation de drogue et d'alcool et par la violence, et qu'elle a décroché du système scolaire en 9e année. Elle indique avoir été une enfant de la rue, sans abri, durant quelques années.
So I went back to university. I went to school and got a degree. ironically, in social work. It made sense. I came from a hard life.
C'est après la naissance de son deuxième enfant que Caroline Cochrane a choisi d'étudier le travail social à l'université, un choix qui l'a ramenée à travailler pendant 20 ans avec les familles à faible revenu et les femmes sans abri. Elle précise que c'est l'inaction des précédents gouvernements des territoires du Nord-Ouest face aux enjeux vécus par les personnes les plus vulnérables qui l'a incité à tenter sa chance aux élections territoriales de 2015. Plus de 50 infractions aux règles entourant la chasse aux caribous auraient été observées depuis le début de la saison par les agents de la faune de la région du Slave Nord. Une situation inquiétante pour l'avenir de cette espèce protégée, comme l'a souligné le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, Shane Thompson, le 9 mars en conférence de presse.
That's a lot higher than it was at this point last year. For reference, we had less than 10 incidents of illegal harvesting and meat wastage for this time last season.
À pareille période l'an dernier, seulement 10 infractions impliquant le gaspillage de viande de caribou avaient été rapportées, selon le ministre. Également présent, le président du conseil de gestion des caribous Beverly et Kamanirjouak, Earl Evans, affirme qu'il s'agit de la pire saison dont il a été témoin au cours des 50 dernières années. Il a confié avoir lui-même repéré, au cours d'une sortie d'environ 3 heures, 9 caribous blessés ou tués sans que leur viande ait été recueillie.
One caribou can feed a family for a couple months, two or three months. And just in that little short trip there, there's 9 caribou that were wasted, you know?
Un seul caribou peut nourrir une famille pour 3 mois et seulement au cours de cette courte sortie, nous avons vu 9 caribous être gaspillés, a-t-il souligné. Monsieur Evans explique cette soudaine hausse des infractions par les températures clémentes observées au cours des dernières fins de semaine qui incitent les chasseurs à sortir. Il ajoute également avoir observé d'importants changements de comportement au fil des générations, attribuables en partie à un meilleur accès aux zones de chasse grâce aux routes de glace. Également présent au point de presse, l'agent de la faune Lee Mandeville a souligné que le GTNO a récemment accru la surveillance des zones de chasse mobiles pour repérer les infractions. Questionné sur les peines encourues par les chasseurs en infraction, M. Mandeville a d'abord esquivé la question et insisté sur l'accent particulier qui est mis sur la sensibilisation et l'éducation.
We're not here to just inspect or investigate bad behavior. We're here to help the communities. A lot of us officers are aboriginals and we have a vested interest as well.
Nous ne sommes pas là uniquement pour enquêter sur les mauvais comportements, nous sommes ici pour aider les collectivités, a souligné l'agent de la faune Lee Mandeville, qui ajoute que plusieurs agents sont eux-mêmes autochtones et travaillent dans leur propre intérêt. Depuis 2018, les caribous de la toundra sont officiellement classés dans la catégorie des espèces protégées des territoires du Nord-Ouest. Toute chasse de caribous est interdite aux résidents non autochtones. Ça fait un an cette semaine que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le début de la pandémie de COVID-19. Depuis mercredi, le 10 mars, le vaccin Moderna est offert à toute la population adulte admissible des TNO. Cependant, les autorités observent un fort taux d'absentéisme au rendez-vous que les résidents prennent eux-mêmes dans certaines plages horaires. Marie-Soleil Desautels, vous étiez à la conférence de presse de cette semaine. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, en fait, il y a jusqu'à 40 % des personnes qui prennent rendez-vous dans les cliniques de vaccination en semaine entre 17h et 19h et le samedi matin qui ne se déplacent pas et n'annulent pas leur rendez-vous, a affirmé la directrice médicale territoriale, la docteure Anne-Marie Peigne, lors de la conférence de presse de la santé publique sur la COVID-19 mercredi dernier. La directrice médicale territoriale invite les citoyens à systématiquement annuler leur rendez-vous afin de libérer la place pour une autre personne. Elle a rappelé que les doses du vaccin Moderna sont très précieuses, que si une fiole est ouverte, ils doivent l'utiliser au complet au risque de gaspiller des doses. Ainsi, si des personnes ne se déplacent pas et qu'une fiole a été ouverte, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de personnes à vacciner pour utiliser tout le contenu de la fiole.
Donc, c'est en effet très déplorable de gaspiller des doses de vaccin. Où est-ce qu'on en est dans la campagne de vaccination, d'ailleurs?
Il y a plus de 17 000 premières doses de vaccins qui ont été administrées aux résidents des territoires du Nord-Ouest et plus de 11 000 deuxièmes doses. Comme le nombre total d'adultes au territoire du Nord-Ouest est de 34 400 et que l'objectif est d'en vacciner 75%, ça veut dire qu'il va y avoir 26 000 personnes qui vont devoir recevoir deux doses. Alors, on a déjà comme la moitié de la population adulte là, qui a reçu la première dose. Et il y a de nouvelles lignes directrices de la santé publique qui permettent d'ailleurs de recevoir la deuxième dose du vaccin Moderna jusqu'à 4 mois après la première, a dit la ministre de la Santé, Julie Green, plutôt que de 28 à 42 jours comme conseillé auparavant. Les autorités de la santé publique ne prévoient pas pour autant changer le calendrier de la vaccination, mais ça donne plus de flexibilité.
Répétons certaines informations. Hein. On le sait qu'il y a plusieurs personnes, surtout dans les provinces du Sud, qui rêvent d'avoir ce vaccin. Donc, allez à vos rendez-vous. Évitez de gaspiller des doses. Marie-Soleil Desautels, merci beaucoup.
Je vous en prie.
À partir du 15 mars, tous les adultes d'Iqaluit au Nunavut pourront recevoir leur première dose du vaccin Moderna. Le numéro 1 de la santé publique du Nunavut, le Dr Michael Patterson, a affirmé que 75% des adultes du Nunavut auront reçu leur vaccin d'ici la fin du mois de mars. On apprenait également cette semaine qu'après plusieurs semaines de confinement strict, la collectivité d'Arviat est enfin prête à un relatif retour à la normale. Le Dr Patterson a annoncé plusieurs assouplissements aux règles imposées aux résidents de la collectivité qui a été frappée par une importante éclosion de la COVID-19. Le port du masque y demeure obligatoire pour quiconque est à l'extérieur de son domicile et les voyages à destination ou en provenance d'Arviat reste interdit pour l'instant. Toutefois, les entreprises et les lieux de travail peuvent rouvrir leurs portes, les écoles d'Arviat peuvent à nouveau accueillir les étudiants, les garderies peuvent aussi reprendre leurs activités et les rassemblements extérieurs de 25 personnes ou moins sont à nouveau autorisés. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a dévoilé son nouveau programme de sensibilisation de la fonction publique aux cultures autochtones. Baptiste Foisy est avec nous pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, un programme de sensibilisation aux cultures autochtones, est-ce que le gouvernement territorial n'en avait pas déjà un?
Oui, bien sûr. Évidemment qu'au territoire du Nord-Ouest, c'est pas depuis cette semaine que ces questions-là se posent. Il existait bel et bien un programme qui était proposé à la fonction publique, un programme qui est remplacé en fait par ce nouveau programme qu'on appelle « Bien vivre ensemble »,« Living well together » en anglais. Et donc, ça remplace ce qui existait déjà. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est des travaux qui ont été amorcés il y a quand même un certain temps. Tout ça dans la foulée là, des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens au Canada. Et donc, en l'application de ces recommandations-là, on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait bonifier le programme existant et on arrive avec ce nouveau programme. La ministre des Finances, qui est responsable des ressources humaines, Caroline Vauzonnec, en a fait l'annonce mardi.
Je suis vraiment fière, contente d'annoncer aujourd'hui qu'on va commencer avec Living Well Together. C'est un nouveau programme de la département de finances en tant que les ressources humaines pour toutes et tous les servantes publics, mais aussi la public en général. Ça va être quelque chose que tout le monde dans le territoire des Nord-Ouest, tous les Ténois pourront accéder. Et c'est une course qui a 8 sections, 8 portions dirigées envers de la Truth and Reconciliation numéro 57. Et le fait qu'on devrait commencer à comprendre mieux c'est quoi la réconciliation et comment est-ce qu'on peut promouvoir la réconciliation dans notre vie, chacun et chacune, non seulement dans de ce qu'on fait chaque jour, mais aussi quand on vit dans la communauté.
La ministre des Finances, Caroline Vauzonnec, qui est fière de cette initiative, mais qu'est-ce qui distingue le nouveau programme de ce qui existait avant?
Oui, bien sûr. Il y a 8 modules plutôt que 4. Alors, on voit que c'est plus étoffé. Évidemment, on a revu le matériel pour cadrer davantage avec les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Ce que vont voir essentiellement les fonctionnaires qui prendront part à ce programme, C'est d'abord le colonialisme, qu'est-ce que c'est? Son histoire au territoire du Nord-Ouest. Ensuite de ça, on inclut là-dedans l'historique des pensionnats indiens et leur héritage. Et ensuite, là, on voit des notions d'interculturalisme là, qui peuvent s'appliquer aux situations avec les personnes autochtones, mais aussi à d'autres situations interculturelles. Et ce qui est surtout différent, c'est que ce programme-là ne sera pas seulement pour la fonction publique territoriale, il sera accessible à tous. Alors, les gens à la maison pourront suivre le programme s'ils le veulent. Les employés dans les municipalités, par exemple, peut-être pourront se le faire proposer dans les milieux de travail. Soyez pas surpris si on vous propose éventuellement de faire cette formation. Et on s'attend à ce que tous les employés de la fonction publique territoriale suivent la formation, ils seront tenus de le faire et on espère qu'ils auront tous complété leurs 8 modules d'ici 12 mois.
Donc, le programme est rendu disponible à tous les Ténois. Est-ce que c'est accessible dans les langues officielles du territoire, Baptiste?
Bien, ça ne semble pas être le cas. Quand on va sur le site web du programme, dans sa version française, ce n'est pas traduit en ce moment. Le titre a bel et bien été traduit, lui, « Bien vivre ensemble ». Mais j'ai demandé là, au gouvernement si le programme était présentement en traduction et le cas échéant, quand est-ce que ce serait disponible en français en tout cas. Et jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu de réponse.
Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
En 2015, la commission Vérité et réconciliation se terminait avec 95 appels à l'action, dont 4 s'adressaient à différents paliers gouvernementaux. La municipalité d'Inuvik les a adoptés le 24 février dernier. Mon collègue Denis Laure est avec nous pour nous en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, ces appels à l'action, qu'on pourrait aussi appeler des recommandations, c'est destiné à remédier aux séquelles laissées par les pensionnats indiens, comme on les appelle, et à faire avancer le processus de réconciliation. Concrètement, la municipalité d'Inuvik s'engage à quoi?
Ben, Inuvik a adopté à l'unanimité les appels à l'action de la commission en 4 motions. Si vous voulez, on va écouter la mairesse d'Inuvik, Natasha Kulikovski, qui va nous expliquer 3 de ces motions-là.
What we've talked about, and so one of them actually was to adopt the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, or UNDRIP, so that we accomplished through a motion, which then we will use to apply to all of our decision-making processes here at the town. That we've done is, it's actually on my desk, is to set up some group leadership tables where we would directly work with the Indigenous governments here in Inuvik.
Natasha Kulikovski, mairesse d'Inuvik, explique donc que ces motions visent à adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En gros, cette motion devra se manifester dans l'ensemble des processus de décision de la municipalité. Pour ce qui concerne la mairesse, elle explique qu'elle devra mettre en place une table de leadership pour travailler avec les gouvernements autochtones.
Oui. Il faut se souvenir qu'en 2020, Fort Smith a aussi adopté les appels à l'action de la commission. Inuvik prend ici une position quasi identique. C'est pas quelque chose qui nécessite un budget supplémentaire, explique la mairesse. C'est plutôt comme une philosophie, une approche qui va s'inscrire dans les positions stratégiques. Ce qui peut être un peu confondant, c'est qu'un des appels à l'action de la commission, c'est d'adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pardon, qui comprend elle-même ses propres appels à l'action, même si le terme n'est pas utilisé.
Donc, ça a effectivement un côté mise en abîme. La quatrième motion, c'était d'offrir aux élus et aux employés municipaux une formation sur la compréhension interculturelle et la sensibilité en milieu de travail.
Oui, ça va se concrétiser très prochainement. Le gouvernement ténois vient de lancer « Bien vivre ensemble », sa formation de sensibilisation aux réalités culturelles autochtones qui est destinée aux fonctionnaires du territoire. Mais en conférence de presse, la ministre des Finances, Mme Wozniak, qui encadre le programme, a dit que le contenu pouvait très bien s'appliquer au niveau municipal. La mairesse, elle, a vu que la formation soit obligatoire pour les nouveaux employés, mais la conseillère municipale, Reagan Solotki, aimerait que ça soit obligatoire pour et les élus et tous les employés, qu'ils soient anciens ou nouveaux.
On note que le conseil tribal Gwechin et la société régionale Inavialuit ont été invités à commenter l'engagement de la municipalité d'Inuvik, mais se sont abstenus. Denis Laure, merci beaucoup.
Merci.
La ministre Mélanie Joly a récemment présenté un document d'intention pour une éventuelle réforme de la loi canadienne sur les langues officielles. Elle dit vouloir déposer un projet de loi au cours des prochains mois. Avec les élections qui approchent à grands pas et qui pourraient même être devancées, apprenait-on cette semaine, la ministre devra faire vite pour présenter son projet de loi. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle cette semaine. En lançant ce document d'intention, vous aviez exprimé l'intention de donner des dents à la loi. L'une des demandes clés des communautés francophones, c'était la création d'un tribunal administratif. C'est pas inclus dans le projet de loi qui est envisagé. Le NPD et les conservateurs ont indiqué qu'ils appuieraient la mise sur pied d'un tribunal administratif. Pourquoi pas le Parti libéral?
Bien, premièrement, lorsqu'on regarde la réforme, l'objectif, c'est de donner plus de dents, de façon générale, à notre commissaire aux langues officielles pour que finalement la loi sur les langues officielles soit mieux respectée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en donnant des nouveaux droits au commissaire aux langues officielles, on lui donne des pouvoirs d'ordonnance. Pour être en mesure d'offrir ces pouvoirs d'ordonnance-là, il va pouvoir aller à la Cour fédérale. Donc, dans les circonstances, la demande d'obtenir un tribunal est dans les faits obtenue. Parce qu'on arrive à ce que les intervenants voulaient par un autre moyen, mais tout en renforçant notre commissaire aux langues officielles.
Vous arrivez aujourd'hui avec une proposition. C'est une première étape vers le dépôt d'un projet de loi en 2021, dit-on. Quand est-ce que ce projet de loi va être déposé? On arrive au printemps. Est-ce que le projet de loi risque pas de mourir en cours de processus s'il y a des élections à l'automne?
Bien, bonne nouvelle, Thomas. Pourquoi? Parce que la réforme, elle est somme toute très bien accueillie. Donc, plus elle est accueillie positivement, plus elle permet de pouvoir obtenir l'appui d'au moins d'un des partis à la Chambre des communes pour être en mesure de déposer un projet de loi et qu'il soit soutenu. On a besoin de l'appui d'au moins un des partis de l'opposition. J'ai un sentiment d'urgence. Mon objectif est de déposer dans les plus brefs délais un projet de loi. J'ai nommé il y a maintenant quelques jours un comité d'experts qui doit me revenir avec des recommandations très claires sur des nouveaux droits qu'on va offrir aux francophones du pays dans le domaine du secteur privé pour les entreprises fédérales. Donc, une fois que je vais avoir eu ces recommandations-là, qui vont en être données d'ici le 7 mai, à ce moment-là, je pourrai procéder à un dépôt de projet de loi.
D'accord. Donc, sentiment d'urgence. On parle quoi de ce printemps ou cet été?
Mais là, justement, je veux m'assurer que le comité d'experts fasse son boulot. Entre-temps, je fais le mien. Donc, les choses vont bien.
Parfait.
Maintenant, une question très importante. Au territoire du Nord-Ouest, on a 11 langues officielles, dont 9 langues autochtones. Évidemment, au plan fédéral, les langues officielles, c'est l'anglais et le français. Vous proposez de bonifier la loi pour indiquer qu'elle n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits à l'égard des autres langues en mentionnant explicitement les langues autochtones. Concrètement, comment est-ce que vous comptez rendre ce projet de loi fédéral cohérent aux réalités linguistiques et culturelles du Nord? Est-ce qu'on envisage de créer un pont entre la future législation et la récente loi fédérale sur les langues autochtones?
Mais donc, en effet, Thomas, vous avez raison. On reconnaît que la loi sur les langues officielles ne peut pas porter atteinte à la nouvelle loi sur les langues autochtones qu'on a adoptée en tant que gouvernement en 2019. Ça faisait suite aussi à différentes initiatives qu'on avait mis sur pied en tant que gouvernement pour la première fois financer le gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour soutenir à leur tour les services en différentes langues autochtones sur leur territoire. Mais aussi, ce qu'on reconnaît dans les blancs, c'est la dynamique spécifique des territoires du Nord-Ouest et de tous les territoires concernant leur reconnaissance des différentes langues autochtones. Donc, ça sera nécessairement l'objectif de continuer à en faire plus pour protéger nos langues autochtones qui sont dans un état, très, très, très préoccupant, qui nécessite toute notre attention pour faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas, parce qu'on fait face à une réelle urgence à ce niveau-là. Puis en même temps, bon, respecter aussi nos obligations constitutionnelles en matière de langues officielles et s'assurer qu'on puisse continuer à parler en français pour les Franco-Ténois, en fait, pendant des générations.
On propose également d'inclure le français dans des entreprises privées de compétences fédérales. Est-ce que ça s'appliquerait aussi à une communauté comme la nôtre, où les francophones représentent plus ou moins 5 % de la population? Par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir des services en français dans les banques ou au bureau de poste?
Mais ce qu'on va vouloir faire, certainement, bon, c'est sûr qu'en tant que gouvernement fédéral, on va continuer, nous, d'offrir des services en français là où la demande le justifie, donc que ce soit Poste Canada ou Service Canada ou essentiellement même Air Canada, va devoir respecter la loi sur les langues officielles. Sur la question du secteur privé, on veut que les entreprises de juridiction fédérale, donc les banques, les entreprises de télécommunications, se retrouve nécessairement à en faire plus pour offrir des services en français. Donc, on va vouloir soutenir de l'offre active, c'est le terme qu'on utilise beaucoup en matière de langue officielle. Maintenant, pour les régions à forte présence francophone, c'est sûr qu'on va vouloir reconnaître un droit de travailler en français et d'être servi en français. Et ça, ben, le comité que je viens de nommer, le comité d'experts auquel j'ai fait référence un peu plus tôt, ce sera à eux de me dire quels vont être les critères pour déterminer quels sont, dans le fond, comment on doit déterminer une région à forte présence francophone. Donc, c'est pour ça que pour finaliser mon projet de loi, j'ai besoin de leur point de vue. Entre-temps, je travaille vraiment sur d'autres aspects du projet de loi, mais j'ai besoin de ce point de vue-là des experts pour être capable de finaliser le tout.
D'accord. Et si on a le temps pour une dernière question, peut-être revenir après ma première question. Là, cette fameuse volonté de donner plus de temps à la loi, auriez-vous des exemples concrets de la façon dont ça pourrait s'appliquer au territoire du Nord-Ouest ou disons dans le Grand Nord canadien?
Mm-hmm. Ben oui, parce qu'on sait que justement, lorsque les communautés francophones sont plus isolées, elles ont encore plus besoin d'être protégés pour être capables de, pour que ses membres, leurs membres, soient en mesure de vivre en français. Donc, basé là-dessus, ce qu'on veut, c'est qu'on protège davantage nos institutions, les institutions qui sont clés à la vitalité des francophones, que ce soit un centre communautaire, que ce soit une troupe artistique, c'est un théâtre, que ce soit une radio, un média communautaire, des piliers qui font en sorte justement que c'est plus facile de transmettre la langue et de vivre dans sa langue. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on veut faire, c'est vraiment développer une stratégie d'immigration francophone. C'est la première fois que le Canada aurait une telle stratégie qui fait en sorte justement d'amener des nouveaux arrivants francophones dans nos différentes communautés francophones partout à travers le pays. Et troisième point, mais je pense que le gouvernement fédéral, on va faire un meilleur boulot pour permettre que nos fonctionnaires, que les personnes qui travaillent au sein de nos bureaux, dans le fond de notre appareil fédéral, soient en mesure vraiment de parler en français et de travailler en français. Donc, on va s'assurer de créer une agence centrale au sein du gouvernement pour qu'il y ait vraiment un meilleur suivi et une meilleure c'est comme dans le fond une meilleure mise en œuvre au niveau du respect des langues officielles au sein du gouvernement.
C'était Mélanie Joly, ministre des Langues officielles du Canada. Le 23 février, le président des États-Unis, Joe Biden, et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ont signé une entente de principe. Le document présente plusieurs axes de travail, notamment contre les impacts du réchauffement climatique, plus particulièrement pour le refuge arctique en Alaska. C'est un dossier que ma collègue Nelly Guédessi suit de près depuis quelques mois déjà. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Nelly, quelle place occupe le refuge arctique dans ce fameux document?
Alors, cette feuille de route indique que les deux dirigeants, donc le président des États-Unis et le premier ministre canadien, ont convenu de travailler en partenariat à la sauvegarde des zones de mise bas de la harpe de caribou de la Porcupine, qui sont essentielles à la culture et qui représentent un moyen de subsistance de base pour les peuples Gwetchen, mais aussi Inuvialuit. En d'autres termes, ce document reconnaît l'importance culturelle des caribous pour le peuple Gwetchen. Et il aborde aussi le problème de la souveraineté alimentaire, puisque le caribou fait partie du régime alimentaire traditionnel du peuple Gwetchen.
Et comment le peuple Gwetchen a accueilli cette annonce?
Alors, cette annonce a été accueillie avec soulagement et avec joie. J'ai eu la chance de parler au chef de la Première Nation, Wuntut Gwetchen du Yukon, le chef d'Anativiatram, qui explique avoir pleuré de joie en apprenant la nouvelle.
J'ai eu une conversation avec un de nos aînés, Lorraine Nitro, qui a travaillé sur ça presque son entire vie. And we both ended up in tears of absolute joy that an issue that is so vital to our people and our culture is being recognized in the highest offices in the Americas.
C'était Danativiatram, chef de la Première Nation Wuntut Gwetchen, qui explique qu'il était en présence d'une personne aînée qui s'est battue toute sa vie et ils ont véritablement pleuré de joie à l'annonce de la nouvelle. Le refuge arctique est un enjeu vital pour le peuple Gwetchen et c'est une reconnaissance de leur culture au plus haut degré en Amérique du Nord.
Une initiative importante aux yeux des Gwetchen, c'est un premier pas, mais est-ce que les deux pays ont comme objectif commun, Nelly, la mise en place d'une protection permanente du refuge arctique?
Alors, du côté canadien, la position est claire et le gouvernement fédéral souhaite véritablement une protection permanente du refuge arctique. Et dans cette optique, le Canada avait déjà mis en place des zones de protection de la harde de Caribou Porcupine dans le territoire du Yukon en créant le parc national Ivavik en 1984. Et ce parc se trouve sur la route migratoire de ces caribous. Pour le côté américain, il va falloir attendre un petit peu parce qu'une proposition de loi a été déposée au Congrès américain le 4 février 2021. Cette loi fera l'objet d'un vote à l'automne prochain. On en saura plus à ce moment-là.
Bien, on va certainement vous rappeler à ce moment-là Nelly Guidici, qui avait signé un article dans l'édition de cette semaine du journal L'Aquilon. Merci beaucoup.
Merci Thomas.
Pour clore le mois de l'histoire des Noirs à Iqaluit, la Nunavut Black History Society reconduit son défilé de mode For Us by Us. Ça se passe ce dimanche 14 mars. L'événement va réunir des stylistes afro-descendants et inuits qui auront l'occasion de présenter leur création à la communauté Nunavumiut. Ma collègue Marine Lobrio est avec nous pour nous en parler. Bonjour Marine.
Bonjour Thomas.
D'abord Marine, expliquez-nous le principe de ce défilé For Us by Us.
Alors, For Us by Us, c'est un défilé de mode communautaire durant lequel des stylistes et des acteurs de la communauté du Nunavut présentent leur collection. Donc, c'est une démarche de l'association Nunavut Black History Society qui, en réalité, est là pour promouvoir et célébrer la richesse artistique locale. Je vous laisse écouter Muriel Jacinthe, la directrice des relations publiques de l'association.
On a toujours un défilé de mode qui est imbriqué dans la présentation finale qu'on appelle la finale habituellement à la fin de Black History Month, du mois de l'histoire des Noirs, mais cette fois-ci ça va être séparé et donc ça va être une soirée complète où on aura plusieurs designers. Dans les designers de mode, nous avons des designers afro-descendants, mais aussi des designers inuits, parce que nous sommes au Nunavut. Alors, on a vraiment le désir d'encourager et puis de présenter l'excellence des BIPOC noirs, afro-descendants, des personnes de couleur et des inuits là, du territoire. Alors, nous aurons ce plaisir-là. Il y aura aussi des bijoux, par exemple, confectionnés par des artistes inuits. Et puis, les mannequins, c'est des gens de la collectivité qui vont les présenter.
Donc, Muriel Jacinthe, directrice des relations publiques de la Nunavut Black History Society. Donc, la soirée clôt le mois de l'histoire des Noirs, mais Marine, elle est ouverte à des artistes issus d'autres communautés.
Oui, tout à fait, parce que l'association s'est voulue très inclusive. Donc, il y aura des designers afro-descendants, mais aussi inuits, pour mettre en lumière, en réalité, la diversité artistique du Nunavut. Il faut aussi ajouter que cette édition a été bonifiée pour devenir un événement à part entière, donc beaucoup plus grandiose, selon ce qu'a annoncé Muriel Jacinthe.
Un événement grandiose, on a donc des grandes attentes. Où est-ce que ça se passe, Marine?
Ça se passe à l'Askarnit Hotel. Donc la billetterie est disponible en ligne sur la page Facebook de la Nunavut Black History Society, mais il semblerait malheureusement pour ceux qui veulent y aller que l'événement soit déjà complet.
Bon ben ça vaut toujours la peine d'aller jeter un coup d'œil. Marine Lobrio, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. D'ici là, je souhaite une excellente semaine de relâche aux nombreuses personnes concernées. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.